Frères et sœurs, il y a comme un leitmotiv, une récurrence dans les trois lectures que nous avons entendues. Le peuple que Dieu veut laisser subsister sera petit et pauvre. Ça, c'est ce que nous avons entendu dans le livre de Sophonie. Et puis, dans la première aux Corinthiens, dans la deuxième lecture, on a entendu « Ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. » Et puis, dans l'Évangile, on entendait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Il semble que ce qui est pauvre, petit, humble, a les faveurs de Dieu, tandis que ce qui est puissant, sage aux yeux des hommes ou de haute naissance, est repoussé. D'un côté, on a l'impression que ce qui est pauvre, ce qui est simple, ce qui est petit a les faveurs de Dieu, tandis que ce qui est puissant ou sage aux yeux des hommes est repoussé. Mais ça nous pose une question quand même. Est-ce que le Seigneur aurait un problème avec la grandeur ? Est-ce que le Seigneur aurait un problème avec la grandeur, en particulier la grandeur à laquelle l'homme pourrait prétendre ? Vous savez, cette question, elle est sérieuse parce qu'elle est au cœur du chapitre 3 de la Genèse. C'est au cœur de la chute, du récit de la chute. Vous vous souvenez, le serpent, le diable, dit à Ève, « Pas du tout, vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. » Et il continue, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. » Et selon les propos du serpent, Dieu est un obstacle entre les hommes et leur plus grand bien, devenir comme des dieux. Dieu est un obstacle. Dieu voudrait-il maintenir l'homme dans un état de sujétion duquel pourtant l'homme serait en droit de se libérer ? Est-ce que Dieu veut empêcher l'homme de grandir ? Parce que la compréhension que nous avons de l'humilité et de son sens, de son utilité, de sa légitimité, va finalement déterminer l'image que nous nous faisons de Dieu. Quelle est l'image que j'ai de Dieu ? Est-ce que j'ai comme image de Dieu un Dieu bon et ami des hommes, ou bien l'image d'un Dieu manipulateur qui chercherait à maintenir l'homme dans un état infantile, un état d'enfant, et l'empêche de grandir ? On aurait quand même tendance à dire, si nous sommes là, c'est plutôt qu'on pense que c'est un Dieu bon et ami des hommes qu'un Dieu manipulateur. Pourtant, essayons de creuser la chose. Qu'est-ce qui est en jeu ? Ce qui est en jeu, c'est la reconnaissance de notre état de créature. Nous sommes des créatures. Les servantes de l'Assemblée qui sont devant moi sont des créatures. Les servants d'hôtel qui sont là sont des créatures. Je suis moi-même une créature. Nous sommes chacun ici une créature, c'est-à-dire que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, c'est reconnaître en fait que nous ne possédons pas en nous-mêmes la vie, nous ne possédons pas en nous-mêmes la vie éternelle. Nous avons l'intuition d'être faits pour la vie. Vous voyez, quand c'est parfois difficile, on dit « Ah, mais c'est pas une vie, ça, on a donc une intuition de la vie. » Mais nous n'avons pas le pouvoir de nous la donner à nous-mêmes. On observe le jeune enfant, il a conscience qu'il est vivant, mais au départ, il n'a pas conscience qu'il est mortel, qu'il peut mourir. Cette fragilité de sa nature, il la découvrira. Cette fragilité de la nature humaine, il la découvrira plus tard, souvent directement lors de la perte d'un membre de sa famille, ou alors par la mort de l'animal domestique. On découvre que les créatures sont mortelles. Et vous vous souvenez que Jésus va insister sur ce point en Jean 6, dans le discours du pain de vie. Vous n'avez pas la vie en vous. Et plus encore, lors du dernier repas que Jésus a avec ses disciples, il leur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est très difficile d'accueillir cette parole dans sa radicalité. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parce qu'instinctivement, on la corrige. « Sans moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose. » Mais quand même un peu, non ? Quand même un peu. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'action de l'homme sur cette terre passe. Et c'est vrai, l'homme voudrait laisser pourtant une trace éternelle, parce qu'il voit que son temps, son œuvre passe. Alors parfois, on utilise un subterfuge pour subsister. Vous avez ces grands monuments, pensez aux pyramides d'Égypte, monuments funéraires gigantesques, ou bien, dans la mythologie grecque, devenir un héros de légende qu'on évoquerait de génération en génération. Mais ce ne sont que des subterfuges. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon action ne dure pas. Je ne peux pas toucher même le cœur de l'autre au plus intime. Il y a un caractère vertigineux de cette dépendance. Je peux me sentir, quand je prends conscience de mon état de créature, comme vraiment, j'allais dire, suspendu au-dessus du vide. Voilà, j'existe un temps, mais ça va passer. Ce que je fais, j'y consacre tout mon cœur, j'y consacre toute mon action, ça va passer. C'est vertigineux de voir cette fragilité. J'ai l'impression d'être suspendu au-dessus du vide, avec la volonté de me raccrocher, de me retenir à quelque chose, sans pourtant rien trouver en moi de véritablement stable. C'est une sensation qui est très désagréable. Si vous êtes sujet au vertige, vous voyez ce dont je veux dire. Quand vous êtes face à un grand précipice, comme ça, si vous êtes un peu sujet au vertige, vous avez à la fois une fascination de ce vide, et puis j'ai pas envie, quoi. Mais il y a une stabilité, d'une certaine manière, que je n'ai pas. Je sens ce vide, je suis mal à l'aise. Eh bien, en tant que créature, nous devons accepter ce vertige de la dépendance et refuser l'illusion de nous donner à nous-mêmes la stabilité et la vie. Il faut accepter ce vertige de la dépendance. Être créature, ça veut dire ne pas avoir la vie en soi. Ça veut dire qu'il faut la recevoir. Ce refus de l'illusion de se donner la vie à soi-même, ce n'est pourtant pas là pour que nous nous morfondions sur notre pauvre condition. Parce que, en fait, quand on se reconnaît comme créature, quand on va reconnaître notre pauvreté, ça va aller de pair avec une autre reconnaissance, celle que nous sommes appelés à l'existence par Dieu. Vous voyez, quand on dit « heureux les pauvres de cœur », on a entendu ça dans la traduction française, en grec, littéralement, c'est « heureux les pauvres par l'esprit », avec ce terme « d'esprit », pneuma, pneumatique, qui désigne aussi l'Esprit Saint. Heureux ceux qui sont pauvres, pas simplement parce que ils ont rien dans leur poche, mais heureux ceux qui sont pauvres par l'action de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'avec eux est l'action de l'Esprit Saint. Et donc, quand on se reconnaît comme créature, c'est pas pour se reconnaître simplement, je suis très faible, c'est pour se reconnaître comme créature de Dieu. Créature de Dieu, créature appelée à l'existence par Dieu qui nous aime, par Dieu qui nous choisit. Il nous a voulu, il nous a choisi dès avant notre conception. Il nous a voulu et il nous veut, et il n'a pas cessé de nous vouloir, et il nous offre de partager sa vie éternelle. Vous voyez, d'une certaine manière, si je reprends mon image du vide, nous faisons l'expérience comme créature d'être suspendus dans le vide, ce qui est effrayant. Mais en même temps, ce qui nous tient, ce sont les mains du Père. Ce qui nous tient, ce sont les mains de Dieu le Père. Et ces mains-là, ce sont les mains les plus sûres. C'est ce qu'il y a de plus solide, de plus délicat, ce qu'il y a de plus fidèle, ce qu'il y a de plus éternel. Je suis peut-être au bord du néant, au bord de la non-existence, mais ce qui me tient dans la vie est ce qu'il y a de plus solide, parce que c'est le Père, lui, qui est la source de toute vie. Oui, se reconnaître comme créature de Dieu, c'est pas simplement reconnaître sa fragilité, c'est reconnaître aussi « je suis voulu et aimé par Dieu, c'est lui qui me tient, c'est lui qui est garant de ma vie. » Et du coup, mon secours est dans le nom du Seigneur, c'est lui qui me tient, c'est lui justement qui me garantit dans la vie, et il n'y a pas plus fidèle que lui. Et c'est dans cette double conscience qu'est notre liberté et qu'est notre joie dans la vie éternelle. Nous tirons notre joie, non de la puissance de notre nature, mais de la puissance de l'appel de Dieu, de l'élection dont il nous a gratifiés. Et donc cela nous permet aussi de regarder à nouveau notre existence et notre nature. Vous savez, parfois quand on se compare les uns les autres, on se dit « Ah, celui-ci, il a plus que moi ». Que ce soit dans ses talents, ses qualités, dans ses expériences, et moi je trouve que j'ai pas eu autant quand même. Et du coup, je peux me dire, mais est-ce que je vaux autant que lui? Est-ce que je vaux quelque chose? Parfois j'ai été très blessé dans mon estime de moi-même, j'ai été très blessé dans la lecture de ma vie, mais tu as été voulu par Dieu, Tu es tenu par Dieu. Le Christ a donné sa vie pour toi. Ta vie a le prix de la vie d'un Dieu. Nous tenons notre joie de la puissance de l'appel de Dieu, de l'élection dont il nous a gratifiés. Je voudrais prendre encore une image pour exprimer cette liberté qui nous est donnée, et j'allais dire la joie de cette liberté. Les images remontent un peu dans ma mémoire maintenant. C'était des images de la station Mir. Vous savez, la station orbitale qui avait été construite par les Russes. Qui existe toujours d'ailleurs. Et c'était des images d'une réparation qui avait eu lieu. Et pour réparer la station, il fallait que les cosmonautes sortent dans l'espace. Ça veut dire sortir dans le vide. Quand vous sortez dans le vide, il y a un problème, quoi. C'est que c'est pas comme sur la Terre, où je tombe par terre, je me relève et je reviens. Si vous êtes parti, vous êtes vraiment parti. Vous pouvez pas dire « Oh, je nage dans le sens contraire ». Et donc pour sortir et pour ne pas se perdre dans l'espace, il fallait qu'il soit attaché à la station, une espèce de corde ou un bras mécanique qui les tenait. Et c'était une image très intéressante. Pourquoi ? Parce que pour faire ces réparations, ils avaient besoin de leurs deux mains. S'ils étaient obligés de se tenir simplement à la station avec une main pour essayer de travailler avec l'autre, la réparation n'était pas possible. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette image ? Que leur liberté d'user de ce qu'ils sont venait justement de cette confiance de quelqu'un d'autre qui les tenait, là de la corde ou du bras mécanique qui les tenait. Ce bras mécanique n'était pas justement une entrave à leur liberté. Ce bras mécanique les maintenait, j'allais dire, dans la vie, parce qu'il leur permettait de revenir à la station, et ce bras mécanique leur donnait la liberté d'user de leurs deux mains pour accomplir ces réparations. Eh bien, on peut lire, je dirais, on peut se faire une image du coup de la main de Dieu qui nous tient, qui nous donne la liberté d'action à travers ce bras mécanique. Oui, nous avons besoin d'être tenus, mais c'est parce que nous sommes tenus que nous avons cette liberté d'action. C'est dans les mains de Dieu que la créature découvre sa liberté d'action. Eh bien, découvrir que c'est dans les mains de Dieu que nous avons cette liberté d'action, c'est peut-être la grâce que nous sommes appelés à demander en ce dimanche. Seigneur, donne-moi de prendre conscience de cet état de créature qui a besoin d'être tenu par ta main. Donne-moi de connaître justement ta fidélité, ton soin pour moi, pour que cet état de créature ne soit pas pour moi comme le signe d'un désespoir, mais au contraire le signe d'une conscience, d'une confiance et d'une possibilité d'être libre, libre d'agir, libre d'aimer, libre de me donner. Car c'est ça que tu veux nous permettre de découvrir. Celui qui s'est découvert en vérité créature de Dieu va pouvoir devenir fils adoptif de Dieu, car il se sait bien aimé du Père, car il sait qu'il reçoit sa vie du Père, comme le Christ, le Fils, reçoit la vie du Père, et il va pouvoir la partager. Puissions-nous, en ce dimanche, apprendre à ne pas lire notre état de créature comme une humiliation sordide, comme une promesse du néant, mais comme l'occasion de découvrir les mains de Dieu qui nous tient, qui nous appelle, qui nous aime et qui nous donne la liberté d'aimer par lui, avec lui et en lui. Amen.